Bonjour, bonjour à tous, mardi 30 octobre 2018. Les feuilles sont tombées, on ne voit plus le sol et je suis en compagnie non pas de feuilles mais de plein de collaborateurs dans le studio ce matin. Rendez-vous compte, nous sommes 4 dans le studio.
Du jamais vu,
c'est Jean-Charles Algan que vous venez d'entendre, à qui
bonjour.
Je dis bonjour. Bonjour également à Yves Olivier.
Bon matin.
Et un petit nouveau, pas si petit que ça, bonjour Combe Vincent, qui nous rejoint autour de la table. Décidément, ça devient populaire cette émission. On dirait les gens se bousculent au portillon pour nous rejoindre et nous nous en réjouissons. Plein de sujets.
Alors, dans les sujets ce matin, à propos de voyage, voyager à l'heure du surtourisme, ça devient un gros problème. Et puis, l'art de marchander quand vous voyagez, et où et comment. Donc, quelques petites astuces à ce sujet-là.
Très bien. De votre côté, Yves Olivier ?
Alors, ma thématique, c'est les sujets qui commencent par la lettre E.
Ah, très bien.
Voilà, histoire de faire ça très original. Très donc, on parlera d'entrepreneuriat.
Intéressant.
D'entertainment.
Aussi.
Okay. Je me permets cet anglicisme-là. Et d'enivrement avec mon cocktail de la semaine.
Votre cocktail hebdomadaire.
Vous tenez le coup.
Très bien, une thématique de Scrabble presque du côté d'Yves Olivier. Combe, qu'avez-vous à nous proposer
Eh bien, on va pouvoir s'intéresser à une équipe japonaise qui a développé un chewing-gum qui ne perd pas son goût. Enfin, fini les chewing-gums jetés au bout de 5 minutes.
De la gomme éternelle,
de
donc.
De la gomme éternelle.
Enfin.
Et le chaînon manquant, enfin, peut être découvert entre les dinosaures et les premiers oiseaux.
Oh là là, très bien, on parle de science également. De mon côté, eh bien, nous parlerons d'un café, très très cher. On parle de 1 200 $, je vous expliquerai pourquoi. Spider-Man est français, le saviez-vous? Eh bien non, je vous le dis, Spider-Man est français, je vous le présenterai. Et puis, un petit article aussi pour vous apprendre, pourquoi pas, à construire votre propre Airbus A320.
Ah oui.
Et oui, si vous êtes un peu désœuvré...
Vous savez pas quoi faire demain.
Bah voilà, vous avez quelques fins de semaine devant vous, ça fait partie des activités possibles. Voilà, le tour de table, et ils vont durer la moitié de l'émission bientôt, les tours de table. Mais il est terminé, c'est donc parti pour cette émission et tous ces sujets.
Voyager à l'heure du surtourisme. Radio-Canada. Un texte de Michel Marsolet. Avec plus d'1 milliard de voyageurs internationaux chaque année, l'industrie du tourisme a le vent dans les voiles, si bien que plusieurs endroits dans le monde se rebellent maintenant contre ce qu'on appelle le surtourisme. Au Salon international de tourisme et voyage de Montréal, 34 000 visiteurs rêvaient le week-end avant-dernier de partir voir le monde. Il y a de plus en plus de Québécois qui voyagent et qui ont envie de découvrir le monde. On a toujours de nouvelles destinations à leur proposer, nous dit Catherine Janin, directrice de marketing de l'événement. Mais ils devront s'habituer à déambuler dans une foule de curieux comme eux. Le nombre de voyageurs internationaux atteint déjà 1,2 milliard et l'industrie croît à un rythme d'environ 7% par année. Des hordes de touristes prennent d'assaut les plus beaux endroits du monde, les ruinant souvent au passage. Moi, j'essaie toujours d'aller dans des endroits le moins touristiques possible parce que ça se ressent quand les résidents en ont assez des touristes. Quand tu vas à l'extérieur des grandes villes, tu le sens que la population est plus accueillante. Voyager, c'est un échange et il faut que ce soit agréable tant pour eux que pour nous, raconte Jadia Archambault, walking, une visiteuse du Salon de Montréal. On comprend les gens qui sont tannés de voir les touristes, mais en même temps, il y a des endroits qui valent la peine d'être visités, même si c'est malheureux pour les résidents. Je sais, par exemple, qu'il y a des problèmes de ce genre à Venise. Mais si je vais en Italie, c'est certain que je vais passer par Venise, parce que c'est un incontournable, ajoute son père, Paul Archambault. Bon, on va connaître toute la famille. Dans plusieurs villes comme Barcelone et Dubrovnik, le sentiment de trop-plein se traduit par des manifestations anti-touristes, même si ceux-ci sont essentiels à l'économie locale. On constate que c'est saturé, Même les endroits dans la nature sont saturés, constate le photographe de voyage Florent Joyeux de l'entreprise Barons-nous. C'est une vraie question. D'abord, parce que pour accéder à certains points de vue, c'est difficile. Il y a des endroits qui croulent sous une foule assez impressionnante et c'est difficile d'être créatif. Tout le monde prend les mêmes photos. Ça, c'est un autre photographe de Harmonie Le Reste. La multiplication des Airbnb a aussi contribué à la flambée des prix des logements dans plusieurs villes et le comportement fêtard de certains visiteurs n'aide pas à les faire apprécier des résidents locaux. À Venise, une partie de la population a été chassée de la ville pour faire place aux touristes qu'on tente de contrôler dans des guérites et des règlements sur le flânage assortis de lourdes amendes. De nouveaux marchés continuent de se développer, notamment en Chine. Rien qu'à Montréal, le nombre de touristes chinois est passé de 50 000 visiteurs en 2014 à 142 000 cette année. Il devrait être de 180 000 en 2020. Certains voyageurs changent déjà leurs habitudes pour éviter l'achalandage excessif. On essaie toujours d'y aller à des périodes qui sont acceptables au point de vue de la température, mais qu'il y ait moins de monde, comme en été, oubliez ça, affirme un visiteur. Les spécialistes parlent plutôt de problèmes d'organisation dans l'accueil des étrangers, avec toujours plus de visiteurs aux mêmes endroits. Pendant les mêmes périodes, les tensions ne sont pas près de s'apaiser.
Suis-je entouré de buveurs de café ? Y en a-t-il qui sont des grands consommateurs de café autour de la table ?
Oui.
J'ai un oui à ma gauche.
Un oui à
pas
ta droite
du tout.
Un
oui.
Face. En face, très bien. C'est donc moitié-moitié. Nous sommes donc à moitié concernés par cet article, puisque je vous parle d'un café hors de prix, et en fait plus particulièrement une tasse de café hors de prix, ça c'est moins courant. Et ça se passe du côté des États-Unis, dans l'US Air Force, qui est sous pression et qui doit s'expliquer pour ses tasses à café à 1 200 $ américains. L'US Air Force se retrouve au centre d'un nouveau scandale depuis qu'un élu a découvert que ses pilotes buvaient leur café en vol dans des gobelets high-tech au prix exorbitant de 1 200 $ pièce. Les gobelets en question ne sont pas d'ordinaire tasse à café en porcelaine, vous en doutez. Ni même ces énormes gobelets isothermes dont les Américains sont friands. Mais des récipients fabriqués dans un alliage spécial de cuivre et de chrome équipés d'une prise qui permet de le brancher directement sur le système électrique de l'avion pour garder le café à la bonne température. Selon un porte-parole de la base aérienne de Travis en Californie, le coût de chacune de ces tasses à café a grimpé à 693 $ en 2016, puis à 1 220 $ en 2018. Et pour une seule raison, et elle est bête, l'anse en plastique du récipient n'est pas remplaçable. Malheureusement, quand la tasse tombe, l'anse en plastique se casse, ce qui a conduit à dépenser des milliers de dollars pour remplacer les tasses, a précisé le sergent James Hogman dans un communiqué. Un détail qu'un influent parlementaire, le sénateur républicain Chuck Grassley, a trouvé dur à avaler. Dans une lettre à la chef de l'armée de l'air, Heather Wilson, le sénateur a exigé des explications sur ses dépenses exagérées, qu'il a qualifiées, je cite, « d'usage irresponsable des deniers publics ». Dans sa réponse publiée récemment, Madame Wilson a reconnu qu'il s'agissait de dépenses irresponsables, expliquant ses dépassements par le fait que les fabricants ont arrêté de produire les pièces détachées nécessaires. Elle a ajouté que l'US Air Force pensait avoir trouvé la solution. Réparer les tasses elles-mêmes, tout simplement. Nous avons démontré récemment que nous pourrions fabriquer des anses avec une imprimante 3D pour 50 centimes chacune, a-t-elle expliqué. Les élus américains ont approuvé récemment des budgets militaires en forte hausse, mais ils ont aussi critiqué les prix exorbitants de certains articles, notamment pour en citer un autre, des abattants pour bol de toilette à 10 000 $ pour l'avion cargo C-17. L'armée américaine est donc en croissance, mais visiblement, c'est du côté des anses à tasse de café et bol de toilette qu'il faut chercher.
Café, café, café noir, café, café, café clair.
J'aime trop le café,
le café, le café.
Je me lève tôt, je prends un café.
Je prends un café, je prends un café.
Tu l'es chaud dans mon café.
Dans mon café, dans mon café.
Au resto, je prends un café.
Je prends un café, je prends un café.
Appelle-moi un smoke cappuccino. Je prends mon café avec mon verre de vino. Comme un prof de philo, je commande des grains au kilo. Puis je les range dans mon silo. Je suis sur le Coca-Cola. Je prends des gros refills au Cora. Après je sors à la Maradona. Puis je fais des marathons à Donnacona. Je prends des nuages de lait. Un peu de sucre, yeah, c'est comme ça que je l'aime. Pas le choix, je prends un Tim Hortons. Puis je saute high comme Michael Jordan. Passe-moi la balle, ton truc c'est la balle. Je redeviens tribal, puis je chante plus mon visage. Prononce plus mes syllabes, mon dieu c'est formidable. Je suis comme sur un mirage. Sur le bateau de Sinbad.
J'aime trop le café.
Le café, trop le café.
Je me lève tôt, je prends un café.
Je prends un café, je prends un café.
Tu l'es chaud dans mon café.
Dans mon café, dans mon café.
Au resto, je prends un café.
Je prends un café, je prends un café. Je prends un café, café, café noir. Café, café, café crème. Café, café, café noir. Café, café, café crème. Café, café, café noir. Café, café, café crème.
Chaque jour, quand je me lève, je pars ma cafetière comme les gens célèbres. La température de l'eau s'élève. Quand j'ai pas mon café, 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 yo, je m'énerve. Une crème, deux sucres, dans le métro ou dans l'autobus. Dans mon backpack, j'ai ma carte aux puces. Et une nouvelle tasse à café que je viens d'acheter au marché aux puces. Yeah, Americano S. Presso dans la bouche, demande un double à l'hôtesse. Mentalité zen, j'évite le gros stress. Y'a vraiment beaucoup trop de saveurs qu'il faut que je teste. Noisette vanille, café pour tes boys, pour ta belle famille. Yeah, je me spécialise, je prends un café avant de partir et dès que j'arrive.
Café, café, café noir. Café, café, café crème. Café, café, café noir. Café, café, café crème. Café, café, café noir. Café, café, café crème. Ok, c'est bon, j'en ai assez. Là, je pense que maintenant
c'est bon. Café.
Trop le café, trop le café.
Je me lève tôt, je prends un café.
Je prends un café, je prends un café.
Du lait chaud dans mon café.
Dans mon café, dans mon café.
Au resto, je prends un café.
Je prends un café, je prends un café.
J'aime trop le café.
Le café, trop le café.
Je me lève tôt, je prends un café.
Je prends un café, je prends un café.
Du lait chaud dans mon café.
Dans mon café, dans mon café.
Au resto, je prends un café.
Café, je prends un café, je prends un café, je prends un café.
Sam Faye et D-Track, j'aime trop le café.
De qui déjà de... Répétez-moi le chanteur. Le de...
Sam Faye, F-A-Y-E.
Et l'autre c'est
D-Track.
Wow. Okay.
D-Track.
Merci. Alors, cher co-animateur, je vous donne une mission, une responsabilité très importante qui va être celle de représenter nos auditeurs. Je vais vous poser une question et chacun à votre tour, vous allez me répondre. Lorsqu'il est temps d'acheter un billet d'avion, quel est l'élément principal que vous prenez en considération dans votre choix de billet lorsque vous magasinez un billet?
Est-ce qu'il y a un choix de réponse?
Non.
De mon côté, c'est clairement le prix.
Le prix,
ah, oui, à chaque fois. En période de vacances, forcément.
T'as pas à t'inquiéter pour l'espace. Hein,
non,
chaise,
j'accepte l'idée que je vais être un peu à l'étalage.
Faire trois escales.
Ouais, c'est ça. Là, en ce qui me concerne, c'est que je me retrouve avec un dilemme, justement. Moi aussi, c'est le prix, mais j'ai pas envie de faire trois escales, surtout 30 heures à Istanbul ou je ne sais où. Donc, je vais être obligé de payer plus cher pour plus court.
Très bien. Et toi, Com?
Non, moi, je vais me concentrer sur le prix, et le prix malgré aussi. Les escales.
Bon, bah, écoutez, alors, dans le fond, Soft Voyage, l'entreprise québécoise qui propose des alternatives moins chères, a fait un bon choix, vu que c'est l'élément principal qui est pris en considération par le Québec, vous trois. Voilà. Donc, Soft Voyage, l'entreprise québécoise derrière vos réservations de voyage. Tout le monde sait qu'acheter un voyage tout inclus en ligne est un jeu d'enfant. Petit crochet vers toi, Jean-Charles, ça ne va pas aider le surtourisme dont on parlait
absolument
tantôt. Mais peu de gens sont au courant qu'une entreprise québécoise est derrière la technologie qui rend l'opération possible. Stop Voyage a bouleversé la façon dont les Canadiens réservent leur forfait voyage en rendant accessible toute l'information qui leur est nécessaire en un clic. Portrait d'un joueur clé de l'industrie touristique. Envie de passer vos vacances dans un tout inclus sans vous ruiner ? C'est ici qu'intervient Stop Voyage, l'entreprise qui a développé le principal outil de réservation de forfait voyage au Canada. Les différents systèmes conçus par la compagnie basée à Montréal sont utilisés par 5000 agences de voyage et la totalité des tours opérateurs au pays. La liste des clients de Stop Voyage est longue. On y retrouve entre autres des joueurs clés tels Vacances Air Canada, Sunwing, Transat, WestJet, Expedia et Club Med. Cela représente des réservations de 50 000 nuitées par jour et des transactions annuelles de 3,5 milliards de dollars, indique Steve Ringuette, cofondateur et coprésident de Stop Voyage. Le succès de l'entreprise repose en grande partie sur Sirev, S-I-R-E-V, un système à l'usage des agences de voyage et des sites de réservation de voyage. Notre technologie est unique au monde car elle permet d'établir des critères de recherche très précis pour plusieurs destinations à la fois, explique Steve Ringuette. Un Américain va arriver au même résultat au bout d'une demi-heure. Stop Voyage s'est d'ailleurs vu décerner le nombre prix de l'industrie touristique depuis sa création. Pas mal pour un système développé avant l'arrivée d'Internet. En 1992, Steve Ringuette travaillait à l'agence de voyage de ses parents pour payer ses études à HEC Montréal. On devait rechercher les prix dans les brochures des fournisseurs. Ça pouvait prendre des heures avant de donner une réponse au client, se remémore-t-il. Avec l'aide d'un jeune diplômé en informatique, l'entrepreneur de 22 ans a alors lancé les bases de Sirev, qui présentait sur un écran tous les produits disponibles. Mettre à jour quotidiennement les données représentait toutefois un défi. Pendant un temps, nos abonnés recevaient les mises à jour par onde de télévision en plaçant une carte spéciale dans leur ordinateur, mais ça ne fonctionnait pas très bien. 2 ans après la création de Sirev, le jeune entrepreneur a trouvé son premier investisseur, soit Moïse Lévy, fondateur d'une compagnie de solutions informatiques pour les tours opérateurs. Les 30 000 dollars investis par ce dernier ont servi à améliorer le système Sirev et à prendre le virage d'un nouveau réseau appelé Internet. En 1999, les deux entreprises ont fusionné pour devenir Soft Voyage. Une fois que l'usage d'Internet s'est répandu et que la confiance des consommateurs pour effectuer des réservations en ligne a été bien établie, l'entreprise a réellement pris son envol, mentionne M. Ringuette. Bien que Soft Voyage occupe aujourd'hui une position dominante dans les technologies de réservation de forfait voyage, l'entreprise de 60 employés a les yeux tournés vers l'avenir. En plus de vouloir exporter son savoir-faire au tour opérateur à l'étranger, Soft Voyage prépare un nouvel outil qui permettra aux agences de voyage de créer des expériences sur mesure pour leurs clients. De retour à la maison, les gens ne parlent pas de l'hôtel ou du buffet, mais des expériences qu'ils ont vécues. Au cours de l'année 2019, on présentera un outil permettant de bâtir rapidement des forfaits très personnalisés, et ce, à un tarif imbattable, affirme Steve Ringuette.
Alors messieurs, qui est amateur de gomme à mâcher autour de cette table ?
Eh bien, oui, à l'occasion. Écoutez, ça peut dépanner, ça peut sauver dans certaines situations.
À l'occasion, oui.
À l'occasion. Eh bien, c'est une équipe de Japonais qui a donc qui s'est servi de la propriété de certains matériaux pour produire des impulsions électriques qui trompent la langue et donc allonger la durée de notre gomme. En matière de confiserie, la science a peut-être réussi à attraper en partie la magie de Willy Wonka, à l'œuvre dans Charlie et la chocolaterie. Cette équipe de Japonais a en effet réussi, tout comme le confiseur fictif, à produire une gomme qui ne perd jamais son goût. Leurs premiers résultats ont été présentés à Berlin lors de la 31e édition du congrès Annual ACM Symposium on User Interface Software and Technology Adjunct Proceedings. Merci de me le répéter à la fin de l'émission. Ce n'est pas la première fois que des chercheurs réussissent à manipuler le sens du goût grâce à l'électricité. En 2014, une petite cuillère couverte d'électrodes était capable de faire ressentir le salé, le sucré, l'amer et l'acide, soit les 4 goûts détectés par les papilles gustatives. L'idée était alors de générer des goûts interdits aux gens qui doivent se priver en raison d'un régime strict, comme les diabétiques ou les hypertendus. Cependant, certains goûts comme l'amertume étaient plus compliqués à générer, et le goût métallique de la cuillère gênait les testeurs. Un des spécialistes du domaine, le Sri Lankais Nimesha Ranasinghe, a également travaillé sur ce principe. Il a ainsi conçu un cocktail virtuel dont on peut choisir le goût et la couleur par une application mobile. Cette dernière a alors un jeu de lumière placé au fond du verre et active des électrodes sur le pourtour du verre selon les réglages. Hanasinghe a également conçu une sucette électrique sur le même principe. Et donc cette année, une équipe japonaise de l'université de Meiji a présenté sa nouvelle invention, sur le même principe, le chewing-gum au goût inaltérable. Afin d'éviter d'avoir des fils qui sortent de la bouche ou de mâchouiller une batterie dont les composants parfois toxiques pourraient sortir, les scientifiques ont opté pour la piézoélectricité. Qu'est-ce que c'est ? Il s'agit d'une propriété de certains matériaux capable de générer un champ ou un potentiel électrique sous l'action d'une contrainte mécanique. En clair, les matériaux piézoélectriques produisent un courant électrique lorsqu'ils sont tordus, déformés ou bien mâchés. Placés entre deux couches de film pour les isoler de la salive et de capuchons facilitant la mâche, ce matériel a permis aux 80 testeurs du dispositif d'expérimenter un goût décrit comme plutôt salé et amer. Plus précisément, certains cobayes rapportaient une saveur se rapprochant du niboshi, sorte de sardine séchée courante au Japon. Pas vraiment le genre de goût que l'on attend d'un chewing-gum en Occident. Côté texture, une vidéo de démonstration a été postée dans le cadre de la présentation du dispositif à Berlin, et on y voit un jeune homme pressant l'objet entre ses mâchoires, un exercice qui ne semble pas très très agréable.
Brutal, imprévisible, comme un ciel d'Alabama. Qui passe d'un bleu paisible à des nuages d'effroi. Inspirante et sans loi, excessive assassine, elle danse, elle fume, elle boit. Zelda, c'est toi qu'elle a choisi, toi et tous les autres. Tu ne seras jamais tranquille, elle a ses apôtres. Et ta jalousie violente comme un tomahawk emporte ta raison et muselle ses mots. Zelda, tu lui en veux, tu ne veux Dieu que pour toi. Gitane du Charleston, du talent elle en a. Elle te fascine la garçonne, tu vois les signes son combat. Doucement elle devient folle, si près, si loin de toi. Zelda, ton connerie à New York et de Nice à Paris. Vive l'aventure des paillettes à quel prix. Vive au orage et transi, à la scène comme à la ville. Un éternel conflit, une inséparable idylle. Zelda, Scott et Zelda.
Le duo Brigitte nous chantait Zelda.
L'art de marchander. Sylvain Sarrazin dans la presse. Par plaisir de bavarder ou pour éviter de se faire escroquer, tout voyageur devrait s'initier aux ficelles du marchandage qui se pratique toujours dans de nombreuses contrées. Beaucoup de blogs donnent des conseils, mais parfois contradictoires. Normal, c'est une science très inexacte. En voici quelques grandes lignes pour ceux qui ont peur de négocier. Alors, J'ai raccourci, mais il y avait vraiment de quoi lire pour quelques dizaines de minutes. Alors, se renseigner. Il faut d'abord se renseigner. Se lancer dans une négociation sans avoir la moindre idée du prix approximatif de l'objet convoité vous place dans une position désavantageuse. À savoir, au Maroc, Les meilleures affaires se font à la fermeture car toute entrée d'argent supplémentaire est bonne à prendre. Il faut aussi regrouper, c'est-à-dire si plusieurs souvenirs vous intéressent, on peut tenter de les regrouper graduellement, puis demander un prix pour le lot, ou de voir aussi avec un autre touriste qui voyage avec vous s'il est intéressé par d'autres objets, et de faire un lot aussi à plusieurs, c'est possible aussi. Il faut respecter, c'est-à-dire que même si on vous annonce un prix de départ pimenté, ne versez pas dans l'excès en contre-proposant un tarif ridiculement bas. Et ne vous obstinez pas non plus pour quelques misérables cents. Les habitants ou les guides vous indiqueront s'il faut proposer le tiers ou la moitié. Aussi, ne jamais commencer une négociation si vous n'avez pas vraiment l'intention d'acheter, souligne un monsieur Desjardins. Soyez poli et malin dans le sens rusé. Planquez vos grosses coupures et votre iPhone XS. Attention, on ne marchande pas partout, y compris dans les pays où c'est l'usage. Donc, il faut bien se renseigner. Il y a des places où, comme les marchés, sont plus propices au marchandage. S'improviser comédien, eh bien, c'est le temps. C'est le moment d'étaler vos talents d'acteur en dissimulant votre vif intérêt pour l'objet convoité. Le vendeur ne doit jamais le réaliser. Et en bavardant et en blaguant, en lançant des petites tirades, une seule règle, ne jamais s'énerver. Il faut apprendre, alors des petits mots du dialecte local, Kamsin Guiné, Gwali Awi, ça je ne sais pas si je le prononce correctement, mais ça veut dire oui, monsieur le vendeur, Kairot. Ah oui, c'est au Caire. 50 livres égyptiennes pour ce papyrus, c'est trop cher, c'est ça que j'ai dit tantôt. Le genre de formule facile à mémoriser et qui ont généralement une influence sur le commerçant, c'est une stratégie très payante en Amérique latine. Il faut aussi se fixer une limite dans le marchandage et le marchandage n'est pas non plus répandu partout. Donc la société Travelex a publié un petit guide avec des particularités et conseils ciblés pour certains pays. Donc faites attention et prenez vos renseignements avant d'aller marchander pendant vos vacances.
Nous prenons simplement une toute petite pause, mais ne bougez pas, ça va être très rapide et nous serons de retour juste après avec encore plus de sujets. A tout de suite. C'est parti pour la deuxième partie 2 de cette émission et je vous propose de débuter en prenant un peu de hauteur, si vous le voulez bien. Nous allons parler de Spider-Man, qui d'ailleurs, soit dit en passant, est un des films que je comprends le moins. C'est-à-dire qu'il y a tout le temps des nouveaux films de Spider-Man, à peu près sur la même histoire à chaque fois. Je suis perdu personnellement, je voulais vous partager ce désarroi de ma part. Mais là, je vous parle du vrai Spider-Man, celui qui escalade vraiment les immeubles dans le vrai monde d'aujourd'hui. Et il est français, bien sûr, parce que tout ce qui est grand en ce monde est français. Je plaisante. Le Spider-Man français grimpe au sommet d'une tour de Londres. Alain Robert, il s'appelle, c'est un peu moins américain. Alain Robert, 56 ans, a réussi mercredi l'ascension des 46 étages d'une tour de la City, paralysant au passage une partie du cœur financier de la capitale britannique. Robert a mis environ une heure pour escalader à main nue et sans matériel, comme à son habitude, la tour Heron, haute de 230 mètres, regardée par des curieux et aussi par la police qui a isolé les lieux alentours en formant un cordon de sécurité. « C'est ce que j'aime faire », a expliqué Robert à un petit groupe de journalistes dans un hôtel voisin peu avant l'escalade. J'ai consacré pratiquement toute ma vie à escalader les montagnes, les falaises, mais toujours en solo, sans matériel de sécurité. Alain Robert, qui n'en est pas à son coup d'essai, a accompli généralement ses ascensions sans matériel pour l'assurer et a déjà plus d'une centaine d'immeubles à son palmarès, où il figure au livre du Guinness des records. Il a notamment escaladé, excusez du peu, le Burj Khalifa, la plus haute tour du monde, 828 mètres à Dubaï, la tour Eiffel, bien évidemment, ou encore, par exemple, les tours jumelles Petronas et Kuala Lumpur. Les tours jumelles, pardon, Petronas de Kuala Lumpur. Il a reconnu se sentir très nerveux avant l'escalade, comme à chaque fois. Mais dès que je commence à grimper, ça va bien parce que je sais que je vais être complètement concentré. Un public à Londres s'était amassé rapidement au pied de la tour pendant l'ascension et la police est arrivée quelques minutes plus tard. Ça me fait bizarre, c'est mon bureau, soupirait John Doherty, 36 ans, qui travaille dans la finance et regardait le français. Je reviens juste de ma pause déjeuner et, surprise, eh bien je vais l'allonger un peu. Nitin Kumar, une indienne de 29 ans, s'étonnait, c'est dingue, c'est incroyable de voir quelqu'un faire ça. Arrivé au sommet, Robert a fait un grand signe des bras avant de disparaître et d'être arrêté par la police. Il s'y attendait en tout cas avant l'ascension. Il m'arrête toujours, a-t-il dit. En 1995, c'était ok, mais depuis le 11 septembre 2001, c'est devenu plus compliqué et je finis à chaque fois au poste de police.
Alors, votre Alain Robert, Louis, là, il n'a qu'à bien se tenir hein, parce qu'il a de la compétition.
Ah,
vous, vous voyez où est-ce que je m'en vais avec ça ?
C'est parti pour une bataille.
Oui, non, ok, parce qu'un peu plus tôt cette année, quand même, n'oublions pas l'autre Spider-Man français, j'ai nommé Gassama Mamadou, vous vous rappelez ?
Ah oui, que... ah oui, dans un autre style.
Lui, il a été remercié par la police pour y être allé, pour aller sauver le gamin de 4 ans.
Absolument.
Bon. Parenthèse refermée. un peu plus tôt, donc tantôt avant qu'on commence l'émission, j'ai sondé mes co-animateurs pour savoir donc s'ils consommaient des séries de télé, des séries de télé américaines, et j'ai eu la confirmation que ils conservent un bel avenir, les séries de télé américaines. C'est juste au niveau du support, donc via la télévision, ça va être un petit peu plus difficile dans les années à venir. Boudé récemment par les Emmys, les séries des grandes chaînes hertziennes américaines autrefois incontournables sont désormais noyées dans l'offre pléthorique de fiction au point de poser la question de l'avenir de ce format. La soirée du 18 septembre dernier a été longue pour ABC, CBS, NBC et Fox. Aucune de leurs séries n'a été primée lors de la cérémonie des Emmy Awards, les récompenses de la télévision américaine. C'est triste à dire, mais si les grandes chaînes ne changent pas leur approche, il y a des chances pour qu'elles ne soient plus là dans 5 ou 10 ans, estime Marty Cook, professeur à Emerson College, scénariste et productrice. La télévision traditionnelle diffuse son propre enterrement, titrait le magazine spécialisé The Hollywood Reporter au lendemain des Emmys, la cérémonie ayant été diffusée sur NBC. Les 4 grandes chaînes hertziennes américaines ont quasiment inventé le concept de série et ont dominé ce format durant 40 ans. Des années 50 à la fin des années 90, avec des programmes comme Seinfeld, Le Cosby Show, Dallas, Star Trek ou Happy Days. Le Cosby Show, Jean-Charles, ça vous dit quelque chose ? Cosby Show ?
Pas vraiment.
Très bien, parfait. mais leurs créations ne séduisent plus la profession, qui leur préfère désormais, lors des Emmys ou des Golden Globes, les plateformes de vidéos en ligne Netflix, Amazon et Hulu, mais aussi les chaînes câblées principalement HBO. Elles doivent commencer à prendre des risques et arrêter de sortir le même genre de série, juge Marty Cook, estimant nécessaire l'introduction de nouveaux auteurs et de nouvelles idées. Ils doivent comprendre que ce qui marchait avant ne marche plus aujourd'hui. Certains parlent de snobisme. L'industrie du divertissement honore les productions dont elle a le sentiment qu'elle leur donne une bonne image, pas celle que le public préfère, écrit le journaliste Rich Helmfels pour les quotidiens du groupe Tribune Media. Le fait est que si certaines séries de Netflix, principalement Stranger Things ou The Walking Dead et Game of Thrones, le préféré de notre, nouveau co-animateur Com, des chaînes câblées AMC et HBO font quasiment jeu égal avec les programmes phares de ABC, CBS, NBC et Fox. Les grandes chaînes historiques sont encore capables de rassembler plus de 15 millions de personnes en moyenne sur une saison pour une série à succès. Pour autant, ces derniers mois, de grands noms de la télévision traditionnelle, notamment la productrice Shonda Rhimes, qui faisait les beaux jours d'ABC avec Grey's Anatomy, Scandal et How to Get Away with Murder, ont fait leur valise. «
je t'ai fait de l'amour à manger avec les doigts. Je t'ai fait de l'amour à manger quand il fait froid. Je t'ai pris de la vie à manger à tout prix. Oh, 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 oh yeah, yeah, yeah. Je t'ai préparé de l'envie, les doigts collés sous ton collant. Je t'ai préparé de l'envie à croquer tout le temps. Je t'ai pris de la nuit à griller sans répit.
Baz nous chantait Love Burger.
Alors, si je devais vous décrire l'animal que j'ai en face des yeux, c'est-à-dire l'Archaeopteryx albersdoerfiri, je pense que je l'ai à peu près bien dit, je dirais qu'il s'agit d'un animal avec des longues pattes telles une autruche, une queue très aplatie comme un castor, un long cou surmonté d'une tête de poule, une grosse tête de poule. Et le tout recouvert de plumes.
On précise que l'animal ne se trouve pas dans le studio. Hein. C'est...
Non,
voilà.
Effectivement, pas avec nous. Il se trouvait là plutôt il y a 150 millions d'années. L'Archéoptéryx, ça fait partie des premières créatures terrestres à avoir expérimenté le vol. Il fallait se lancer quand même. Les paléontologues débattent toujours de sa position phylogénétique et il est classé tantôt comme un dinosaure à plumes et tantôt comme la racine de l'arbre évolutif des oiseaux. Une certitude cependant, cet animal avait bel et bien des plumes, probablement noires, et une aptitude certaine au vol. Mais comprendre complètement la position et les aptitudes des archéoptérix n'a rien d'aisé. Seuls sont connus 12 fossiles de ce dinosaure oiseau qui proviennent tous de l'Allemagne, du sud de l'Allemagne précisément. Des chercheurs de l'université de Manchester ont récemment pratiqué un réexamen du spécimen numéro 8 en utilisant la microtomographie synchrotron, qui permet d'observer un échantillon en 3D grâce aux rayons X, et qui a révélé qu'il s'agissait là d'une nouvelle espèce encore plus proche des oiseaux modernes. Grâce à ce nouvel examen, l'équipe qui a analysé le fossile affirme que ce dernier est physiquement beaucoup plus proche d'un oiseau moderne que d'un reptile. Par conséquent, il est suffisamment distinctif et évolutif pour être décrit comme une nouvelle espèce baptisée, et je vais la réessayer, Archaeopteryx albersdoerfiri. L'étude publiée dans la revue Historical Biology liste l'ensemble des particularités physiques qu'il possédait et qui sont actuellement observées chez les oiseaux volants modernes et absentes chez les archéoptérix plus anciens. Le spécimen numéro 8 est en effet le plus jeune des 12 spécimens connus, d'au moins 400 000 ans. Notre dissection numérique a montré qu'Archaeopteryx partage plus de 9 points communs avec les oiseaux modernes que leurs ancêtres dinosauriens, a déclaré le professeur Per Hallberg de l'université Uppsala en Suède dans un communiqué. Ces caractéristiques suggèrent qu'Archaeopteryx pouvait sans doute voler avec une efficacité améliorée par rapport aux espèces d'Archaeopteryx géologiquement plus âgées, à tel point que les spécialistes qui l'ont étudié n'hésitent pas à le qualifier de « premier oiseau », un titre qui sera bien sûr sujet à de longs débats et sur lesquels on pourra revenir avec plus d'informations.
Alors, en vrac, plusieurs petites informations, dont les vendanges du jamais vu en Angleterre, imaginez donc. L'été chaud et sec a donné un sérieux coup de pouce aux vignes anglaises. La récolte s'annonce comme l'une des plus abondantes de l'histoire de cette jeune région viticole. Le pays se spécialise dans la production de mousseux et ses vins gagnent en popularité. Or, à la suite de gelées printanières, les récoltes 2016 et 2017 avaient été chacune réduite de moitié, laissant les consommateurs sur leur soif. Ces derniers pourront se consoler avec la cuvée 2018. L'été a été comme dans les livres. Parfait, a confié l'œnologue Emma Rice du domaine Attingley au journal The Telegraph. Les bulles anglaises sont vinifiées comme en Champagne. Il faudra ainsi attendre près de 3 ans avant de pouvoir déguster les bouteilles millésimées. Et puis, dans la volée, la semaine du vin à Montréal. Vous n'avez pas acheté votre billet pour le salon des vins naturels Raw le 1er novembre? Trop tard, c'est complet. Cela dit, on peut éviter la cohue et assister à de très nombreuses soirées de vignerons beaucoup plus calmes en marge du rassemblement monstre. En voici quelques-uns. Mardi, aujourd'hui, un trio d'Italiens occupe le Grinder. Le Grinder, c'est un restaurant. Tandis qu'un quatuor du nord de l'Europe s'installe au Loïc. Mercredi, la Loire débarque au Fillette. Une nouvelle délégation de l'agence La Cuvée, qui s'écrit la lettre Q et la lettre V, La Cuvée, passe au Pullman et les Alsaciens sont au Rouge-Gorge. Vendredi, les Boxermann, fêtes avec les Allemands et le Rouge-Gorge, reçoit pas moins de 8 vignerons. Par ailleurs, n'oubliez pas la grande dégustation de Montréal dès jeudi. Et puis, le verger Hemmingford va naître. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez du cidre de glace neige, la face cachée de la pomme, qui n'existe plus parce qu'il y a eu un problème un peu alambiqué, administratif, on va dire, pour rester simple. Et donc, François Pouliot et Stéphanie Baudouin, les anciens propriétaires, ont lancé une campagne de financement afin de démarrer une nouvelle cidrerie après avoir perdu l'été dernier le nom de marque et les produits du domaine neige. Leur nouveau projet verra bientôt le jour. La campagne de financement s'est terminée le 21 octobre sur Kickstarter et l'objectif de $50,000 a été atteint. Dans le verger, plus de la moitié des pommes ont été récoltées, dont la Macintosh. Ces fruits se retrouveront dans le premier cidre prêt à boire en canette qui devrait être mis en vente au début de l'année 2019.
Habitez-vous chez vos amants? Les voyez-vous de temps en temps? Dites-moi tout, c'est passionnant. Habitez-vous chez vos amants?
Je te fuis, tu me suis, mais si je te suis, tu me fuis. Dis-moi juste avec qui tu dors. Je te dirai de qui tu rêves. À l'école du remords, j'ai toujours été bonne élève.
Habitez-vous chez vos amants? Les voulez-vous de temps en temps?
Je te fuis, tu me suis, mais si je te suis, tu me fuis. J'ai trop saigné de larmes et j'ai vu trop de femmes qui trompaient leur mari, mais pas vraiment l'ennui.
Habitez-vous chez vos amants, les aimez-vous plutôt galants, pudiquement, passionnément.
À la folie ou plus du tout, j'ai manqué trop de rendez-vous, mon cœur est devenu caillou.
Habitez-vous chez vos amants, les voyez-vous de temps en temps, dites-moi tout. C'est passionnant, habitez-vous chez vos amants?
Je te fuis, tu me suis, mais si je te suis, tu me fuis. C'est la double peine de cœur, un joli couple bien rangé qui trouve le bonheur servi sur un plateau télé. Je te fuis, tu me suis, mais si je te suis, tu me fuis. Même Roméo, peut-être, aurait quitté Juliette. Après 8 ans de vie commune et de rancœur et de rancune.
Habitez-vous chez vos amants, les trompez-vous de temps en temps, les quittez-vous passionnément.
C'est vrai qu'à l'école du malheur, j'ai toujours été la meilleure. Échec et mat en plein cœur. Je te fuis, tu me suis, mais si je te suis, tu me fuis. J'ai comme un doute du genre humain, j'y passe le moins clair de mon temps. Qui aime bien, trahit bien, mon cœur n'est plus qu'un chien méchant.
Habitez-vous chez vos amants, les aimez-vous jalousement, les fuyez-vous passionnément.
Puisque tout passe, c'est que tout lasse. C'est vrai qu'à l'école de l'angoisse, je suis la première de la classe.
Habitez-vous chez vos amants, les voyez-vous de temps en temps. Dites-moi tout, c'est passionnant. Laissez-moi vous faire la cour, parlez-vous couramment d'amour. Habitez-vous chez vos amants, les voyez-vous de temps en temps. Dites-moi tout, c'est passionnant. Laissez-moi vous faire la cour, parlez-vous couramment d'amour.
Seulement, seras-tu mon meilleur amant?
Agnès Bill et Alexis HK, habitez-vous chez vos amants?
L'été, n'importe quoi, l'automne est désormais bel et bien là. C'est parce qu'il chauffe trop dans mon appartement, c'est pour ça. Mais non, c'est bien l'automne qui est installé désormais. Et donc, qui dit automne, dit longue fin de semaine à se réfugier chez soi, à lire, à tricoter, à faire je ne sais quoi. Eh bien, j'ai une autre activité pour vous, si vous voulez passer du temps agréable et bâtir quelque chose pendant vos fins de semaine. Construisez un Airbus A320. Un paysan chinois, c'est ce qu'il a fait, passionné d'aviation, j'espère, depuis l'enfance, rêvait de piloter un avion, mais désespérait de ne jamais y parvenir. Il s'est décidé à construire lui-même son propre aéroplane au milieu des champs. Zhu Ye a presque terminé sa réplique grandeur nature d'un Airbus A320, garé sur un petit bout de tarmac cerné de champs de blé dans le nord-est de la Chine. Monsieur Zhu, qui n'a pas achevé ses études secondaires, a débuté en cultivant de l'ail et des oignons, puis travaillé comme soudeur dans une usine de la petite ville de Kaiwan. L'an dernier, il a compris qu'il risquait bien de ne jamais pouvoir concrétiser son rêve de piloter un avion. « J'ai atteint le milieu de ma vie et j'ai réalisé que je ne pourrais pas acheter d'avion, mais je pouvais en construire un », explique-t-il tout simplement à l'AFP. Son projet a englouti toutes ses économies, vous en doutez. On parle de 2,6 millions de yuan, soit l'équivalent d'environ 375 000 dollars. Il s'est inspiré d'une réplique d'un Airbus A320 de la taille d'un jouet, au 1/80e, à l'échelle 1/80e. S'appuyant sur des photos trouvées sur Internet, il étudie les dimensions et parvient, moyennant quelques erreurs, à fabriquer en taille réelle le fuselage, les ailes, le cockpit, les moteurs et la queue. Au total, il utilise près de 60 tonnes d'acier. Il s'est fait aider, il n'était pas tout seul là-dedans, par 5 autres paysans également fanatiques d'avions. D'un côté, il gagne de l'argent, de l'autre, il réalise un rêve et accomplisse quelque chose, observe Monsieur Zhu. Son Airbus artisanal, qu'il vient d'agrémenter d'un cockpit maison équipé de répliques d'instruments de navigation et d'une passerelle pour grimper à bord, n'est en fait pas destiné à voler. Monsieur Zhu a décidé d'en faire un restaurant. « Nous installerons un tapis rouge pour que chaque convive se sente comme un chef d'État », explique-t-il. À bord, au lieu des 156 sièges habituels, ont été installés 36 sièges de première classe pour les clients. Monsieur Zhu ne sait pas encore s'il leur servira des hamburgers avec des frites ou de la nourriture chinoise, mais il espère bien que son avion sera bientôt rempli de passagers affamés.
Peut-être une dégustation de saké.
De saké ou de vin, oui, absolument, absolument, Jean-Charles, on vous tiendra informé.
Vraiment désolé Jean-Charles, mais je vais devoir vous utiliser pour faire ma transition hein, en vous corrigeant. Le saké, c'est...
C'était fait pour ça.
Okay. Ah d'accord, très bien. Le saké, c'est...
japonais.
C'est ça. Alors que là, c'est Tedashi. Voilà.
C'est
ça,
pas,
c'est pour nos auditeurs.
C'est pas loin. C'est, voilà. c'est à côté.
Désolé hein, d'avoir.
Mais bon, je disais, pour la dégustation, on prend pas obligatoirement les choses de son pays. Hein.
Mais écoutez, on est une équipe, hein, et je vais me pardonner auprès de nous faire pardonner auprès de nos auditeurs en proposant un nouveau cocktail pour finir l'émission, hein, le Martini Saké. Voilà. Alors, préparez stylos et papier. Le Martini Saké se fait avec 1 once et demi de gin, 1 once et demi de saké, 1 tranche fine de gingembre frais, 3 glaçons et tenez-vous bien, 1 olive. Vous allez avoir l'air mignon avec ce verre-là. Hein. Donc, dans un shaker rempli de glaçons, ajoutez le gin, le saké et la tranche de gingembre. Agitez vivement, versez dans un verre à martini et garnir d'une olive sur pic. Sur ce, joyeux Halloween.
Mais je peux continuer.
Ah oui, oui.
En vrac, toujours, le tourisme responsable de 8% des émissions de CO2. Saviez-vous ça? Une étude publiée dans la revue scientifique Nature Climate Change révèle que le tourisme serait responsable de 8% des émissions de gaz à effet de serre de la planète. Les chercheurs des universités de Sydney, de Queensland et de Chengkung ont analysé les données de 160 pays entre 2009 et 2013. Ils ont pris en compte plusieurs vecteurs de pollution, soit les transports, l'alimentation, l'hébergement et les achats des voyageurs. En 2013, les émissions de CO2 se chiffraient à 4,5 milliards de tonnes. Différentes projections prévoient que si la croissance se poursuit, le tourisme générera en 2025 entre 5 et 6,5 milliards de tonnes de CO2 annuellement. Les scientifiques proposent la mise en place d'une taxation carbone des déplacements touristiques pour enrayer cette augmentation. Sans transition, Air Transat annule ses vols vers le Nicaragua. Le voyagiste canadien Transat a décidé d'annuler pour cet hiver tous ses vols à destination du Nicaragua en raison de la crise qui a fait plus de 320 morts et 2000 blessés dans ce petit pays d'Amérique centrale depuis 6 mois, a-t-on appris jeudi auprès du groupe. Les clients qui avaient des réservations sur la destination peuvent modifier leurs réservations ou obtenir un remboursement. Le gouvernement canadien conseille à ses ressortissants d'éviter tout voyage non essentiel au Nicaragua. Et puis, qu'arrive-t-il aux plats emballés non distribués en vol? Grosse question. Les aliments périssables, qu'ils soient frais comme les salades ou qu'ils aient été chauffés, sont jetés à la fin de chaque vol, ça se comprend. C'est la réglementation imposée par Transport Canada et Santé Canada, explique Christian Aveline, chef de service général, service en vol pour la base de Montréal chez Air Canada. Il nous est interdit de réchauffer de nouveau les plats et on doit par conséquent s'en débarrasser, comme c'est le cas dans les restaurants. Les canettes de boissons gazeuses, boîtes de croustilles ou tablettes de chocolat non entamées sont par contre conservées pour le prochain vol parce que nos dépenses en nourriture sont assez élevées et pour éviter de jeter des plats à la poubelle, nous maintenons un contrôle serré sur le nombre de plats dont on a besoin à bord selon le nombre exact de passagers, ajoute M. Aveline. Voilà ce qui arrive aux plats emballés non distribués en vol. Et on continue avec les dégustations au sommet de la place Ville-Marie. Ça, c'est encore un autre site insolite pour déguster. Cet automne, 3 ateliers de dégustation auront lieu du côté de l'observatoire Place Ville-Marie. Une rencontre avec le vigneron portugais Pedro Poças Pintão, héritier d'une tradition familiale centenaire, les vignobles Poças, je ne sais pas comment ça se prononce, dans la région du Douro, ouvrira le bal. C'est déjà ouvert d'ailleurs. Puis un atelier ouvert autour des cépages Syrah et Grenache issus des terroirs de la vallée du Rhône et du Languedoc-Roussillon. en compagnie de la sommelière Hélène Dion-Davigny, aura lieu le 7 novembre. Les deux ateliers sont offerts en promotion à un prix de $85.50. Et pour ceux qui aiment quand ça fait pop, une dégustation de champagne et bulles avec la sommelière Kathleen McNeil conclut la saison le 20 novembre. À noter que les prix, alors celui-là c'est à $105.50, inclut les services de boucher en plus des alcools quand même. Une belle petite dégustation.
Eh bien, merci pour tous ces événements, Jean-Charles. Il nous reste à vous saluer, puisque vous allez, à force de parler de voyage, en faire un.
Oui.
Et nous laisser un peu quelques semaines.
Oui, absolument.
Nous vous retrouverons l'année prochaine, donc à l'année prochaine.
À l'année prochaine, effectivement, pour les auditeurs.
De notre côté, avec Yves-Olivier et comme Vincent, nous serons bien là. Merci à Maurice Bolduc pour la mise en onde. Bonne semaine et à la semaine prochaine.